Dans le tempo, épisode 1, c'est parti. On est très content de passer du temps avec vous. On va se retrouver chaque mois pour parler de musique ensemble. On va essayer d'avoir un regard différent sur la musique. On va essayer d'analyser les grands phénomènes qui nous entourent, des phénomènes plus anciens. Et pour ça, je serai accompagné à chaque fois de Chronomusique, alias Mich Mich. Comment ça va, Michel ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, très bien.
Toujours bien ?
Oui, toujours bien. On a fait 30 fois cette introduction, mais on est bien. On va avoir un sujet assez particulier pour commencer. On va essayer de se pencher sur l'émergence des nouveaux artistes, comment fonctionne l'industrie, comment le marché d'aujourd'hui fonctionne. On a un invité.
On est ici avec Tarafa Saloul, responsable des nouvelles signatures chez Idol. Donc Idol, c'est un distributeur français qui s'occupe de l'upload sur les plateformes numériques, mais qui propose aussi des services de marketing et des solutions de suivi. Ils sont présents dans différents pays, dont les États-Unis, et ont un gros catalogue d'artistes et de labels. Alors, Tarafa, on parlait tout à l'heure de Lompal, Alexandre Desplat, Sébastien Tellier. Ça fait déjà quand même pas mal d'artistes assez différents.
Ouais, tout à fait.
Et donc, toi, ton rôle, c'est de repérer des labels et des artistes et de faire le lien entre les deux, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Bah, en gros, le boulot de Idol, c'est déjà un boulot d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est un intermédiaire entre les producteurs, les labels, les artistes, d'une part, et les plateformes qui monétisent la musique en ligne, donc Spotify, Deezer, Apple Music, aussi YouTube. Donc nous, on a tout un catalogue de labels qui représentent différents artistes et parfois des artistes en direct. Et moi, mon rôle chez Idol, c'est justement de superviser un petit peu toutes les nouvelles signatures. Donc ça peut être aller chercher un nouvel artiste prometteur, mais le plus souvent, c'est aller trouver un nouveau label un peu chaud, aller chercher un petit peu sur les différents courants musicaux qui peuvent arriver en France ou ailleurs et essayer d'attirer et de signer du catalogue qui sera ensuite représenté par Idol.
En gros, tu es en train de nous dire que ton taf, c'est d'aller voir plein de concerts, d'essayer de repérer des artistes émergents et ensuite de les avoir au sein de ta boîte, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est cool, ça va.
Non, c'est un enfer, les gars.
Ça digue un peu SoundCloud, ça écoute un petit peu ce qui se passe sur YouTube.
Ouais, tout à fait. Effectivement, ça sort beaucoup. Enfin, on va beaucoup voir des concerts, des festivals, également des salons professionnels. Il y en a quand même un certain nombre dans la musique en France et un peu ailleurs, quoi.
Et toi, t'as un style particulier dans lequel tu vas chercher ?
Non, ça non. Vraiment... En fait, on est vraiment généraliste. Moi, je viens vraiment du hip-hop à la base. Donc, j'ai une sensibilité personnelle qui est très tournée vers le rap. Mais en réalité, déjà, j'écoute tout type de musique. Et chez Idol, on n'a pas la volonté de se limiter à un genre. Donc, ça va être autant, effectivement, du rap ou des musiques urbaines, comme on dit maintenant, mais aussi beaucoup de musique électronique, qui est un genre sur lequel on est assez présent. Des bandes originales, de films, de jeux vidéo, du classique, du jazz.
À boire et à manger.
Ouais, mais globalement, que de la frappe, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le distributeur aujourd'hui, donc Idol est un distributeur, ouais, c'est un élément vraiment clé de l'industrie musicale ?
Ouais, bien sûr, c'est essentiel. C'est-à-dire que tu peux pas rendre ta musique disponible sur les plateformes avec un vrai accompagnement et un service marketing sans l'appui d'un distributeur. Donc, c'est vraiment le distributeur qui va parler à Spotify, aux différents éditos, etc. Donc oui, c'est essentiel.
Écoute, c'est parfait, c'est pour ça qu'on t'a invité. Tu as vraiment cette place centrale au sein de l'industrie. Et forcément, en essayant de repérer les artistes émergents, tu as un regard un peu affûté sur comment ça fonctionne ce business pour émerger en tant qu'artiste. On va essayer en cette émission de... pas tant vous donner des clés, on n'est pas sur un tuto, mais essayer de comprendre, d'analyser en tout cas comment ça se passe la création d'un phénomène musical et quels sont surtout les différents facteurs à prendre en compte. On s'est dit qu'on allait diviser ça en trois parties pour essayer de comprendre. En fait, un artiste, lorsqu'il débute, il va avoir des choix à faire forcément. Des choix d'ordre artistique. Évidemment, ça commence par un mec dans sa chambre qui fait du son, qui a envie de proposer de la musique. Et puis ensuite, il y a des choix aussi plus liés à l'image, à la communication, ce qui est essentiel pour qu'on soit écouté ensuite, après avoir produit des choses. Et enfin, évidemment, des choix économiques, parce que si tu veux en vivre, tu es obligé de rentrer dans une industrie. Et forcément, il faut faire des choix, des contrats, des choses comme ça. Donc, on va commencer avec les choix artistiques. Le premier truc, clairement, c'est est-ce que, selon vous, les gars... Pour aujourd'hui émerger, il faut cibler des styles de musique particuliers. Est-ce qu'il y a des styles qui s'en sortent mieux que d'autres ? Et si on veut s'assurer une forme de succès, il faut être dans un style particulier, quoi.
Alors pour moi, déjà, c'est évident qu'il y a des genres qui qui sont plus représentés actuellement, qui sont plus streamés, qui marchent mieux que d'autres. Mais et avant de creuser ça, juste quand on est au stade de la création artistique, que tu es dans ta chambre et que tu veux faire de la musique, bon, tu peux te poser cette question, mais je suis pas sûr que ce soit artistiquement la question la plus forcément la plus pertinente avant de te lancer dans. Enfin, il faut avant tout se lancer dans un truc que t'as envie de faire et qui correspond à ta sensibilité, à ton background musical.
Et si t'as envie de faire des sous.
Et ouais. Si t'as envie de faire des sous, bah là tout de suite faut faire du rap, quoi. Voilà. Plus que, c'est sûr, plus que de la musique classique, quoi. Mais il y a aussi de la place pour d'autres, quoi. Mais oui, c'est sûr. Enfin, voilà, on va pas réinventer la roue en disant que, bah, oui, le rap aujourd'hui, c'est le genre ultra dominant sur le marché. Il suffit de regarder les tops des ventes, les top streams, et de façon générale, c'est monstrueux, même.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect en streaming, on sait qu'il est extrêmement puissant le rap, le streaming ça reste une consommation importante mais pas exclusive, il y a beaucoup d'autres biais pour écouter la radio, la musique pardon, je pense surtout à la radio justement, ouais. La radio qui reste quand même le prescripteur de musique en France, les gens découvrent de la nouvelle musique à travers la radio avant tout. Alors je parle du grand public bien entendu, hein, et on sait que le rap est moins présent en radio par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le biais du numérique, du streaming aussi? Est-ce que c'est vraiment le rap qui s'en sort le plus, ou est-ce que dans d'autres styles, je pense à la variété française, pourquoi pas à la pop, qu'est-ce que t'en dis?
En fait, oui et non, parce que le stream est quand même le médium dominant pour ce qui est de la rémunération des artistes sur la musique enregistrée aujourd'hui, dans le sens où il a dépassé les ventes de CD de façon générale, de vinyle, etc. Par conséquent, effectivement, t'as Skyrock qui est peut-être une des seules radios vraiment FM qui est
spécialisée rap, vraiment.
Voilà, qui est spécialisée rap. Mais en revanche, tu constateras que tous les autres genres musicaux essayent de s'urbaniser en mettant de la 808, les mêmes batteries que dans le rap, que la pop est un peu, soit que le rap est en train de devenir la nouvelle pop, comme on le dit souvent, et la pop est en train donc de s'encanailler, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, elle essaye de se rapprocher des codes du rap. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une grosse partie même de la musique que tu peux entendre sur Virgin Radio, sur Energy, elle est de plus en plus hyper inspirée de ça. Donc,
c'est-à-dire que au-delà même, si je comprends bien, au-delà même de la prédominance du rap, en tout cas de son importance dans l'industrie en termes économiques, etc., artistiquement, ça reste le genre certainement aujourd'hui le plus fort, c'est-à-dire il influence les autres, etc. Quoi.
Ouais, artistiquement, culturellement, clairement. Enfin, c'est l'impression que j'ai, c'est ce que je constate. Et c'est juste en ce moment, quoi, depuis quelques mois, quelques années, et pour on ne sait combien de temps. Mais voilà. Non, mais tu vois, quand tu disais est-ce que du coup il faut faire tel type de musique, enfin en tout cas si on veut voir les choses autrement, peut-être que dans quelques mois il y aura une lassitude aussi dans quelques mois ou dans quelques années d'un seul genre musical. En plus, quand on parle d'un genre musical, c'est aussi un certain formatage de façon générale et bien un sûr. Certain son qu'on peut dire aseptisé ou en tout cas très formaté. Là, ça fait c'est assez rigolo, mais ça fait plusieurs mois que j'entends un peu des gens qui disent c'est bientôt le retour de la guitare, c'est bientôt le retour du rock. Bon, j'irai pas jusque là.
Ça fait des années qu'on dit ça en plus, tu vois.
Ouais. Bah, je pensais peut-être les vieux dinosaures qui s'accrochent à leur rêve, mais ce serait quand même ce serait légitime qu'à un moment il y ait une autre proposition. Tu vois aussi sur Spotify par exemple, c'est et sur les plateformes de stream de façon générale, c'est vraiment le rap qui est hyper dominant. Et c'est pas forcément, ça n'arrange pas forcément les affaires des plateformes qui veulent diversifier leur offre et leur public. Et on remarque depuis quelques mois que la chanson française ou la pop en français est de plus en plus poussée. Il y a des nouvelles playlists qui se font. Disons, par exemple, tu vois, et d'une certaine manière, ça peut nuancer notre début de réponse à cette question initiale, quoi, de la personne dans sa chambre qui ne sait pas dans quel genre se lancer pour faire de l'oseille. Il y a plus de place, par exemple, aujourd'hui, pour un nouveau projet pop, variété française. En playlist, c'est plus facile, c'est moins la guerre pour un nouveau projet. Mmh. Et les plateformes auront peut-être une oreille un petit peu différente et un peu plus positive pour essayer de placer ton morceau dans des playlists là où c'est la guerre. Il y a 50 nouveaux rappeurs et rappeuses tous les jours. Les places en playlist sont hyper chères. Alors que dans d'autres genres qui à un moment donné vont être peut-être priorisés par des plateformes qui veulent développer peut-être une audience un peu plus stable, qui va prendre des forfaits un peu plus chers, j'en sais rien, plutôt que un forfait famille qui se divise en tout le monde. Bon, bref, il y a des genres qui vont être un petit peu qui vont profiter en fait des politiques des plateformes, et c'est le cas. Enfin, j'ai l'impression que c'est le cas depuis quelques mois de la chanson, enfin de la pop, de façon générale.
Les gars, j'aimerais vous lancer, notamment t'interroger, Chrono. On l'a vu clairement, le rap tire son épingle du jeu, même si c'est pas exclusif, la variété reste forte, etc. Et globalement, si on pourrait résumer la recette aujourd'hui, ce serait de s'urbaniser d'une certaine manière, de reprendre au cas quelques codes du rap. C'est quand même ce qui fonctionne actuellement, quoi. Mais est-ce que, moi je m'interroge toujours sur la tension entre, évidemment, musique mainstream, musique plus originale, est-ce que notamment à l'ère du numérique, il y a toujours une place pour les morceaux plus de niche, les groupes plus de niche, dans des genres voilà, qui ont certes un public fidèle, mais est-ce que c'est celui qui va réellement streamer le plus, etc. Chrono Musique, toi-même déjà tu composes, tu regardes carrément le marché, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que tu as un regard un peu ça, tu vois, sur la frontière entre mainstream et original? Est-ce qu'il y a toujours de la place pour l'originalité? En gros, voilà, on revient à notre histoire pour émerger en tant qu'artiste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la place quand tu fais un truc qui parle pas forcément à tout le monde?
Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Ça dépend de tes ambitions. Moi, je pense que si toi, tu as envie de... Ça dépend de où tu places le curseur. Il y a toujours un équilibre à trouver entre... originalité et être capable de parler à un large public. Et genre, fatalement, plus tu vas être original, moins tu vas être compréhensible. Donc, en gros, c'est à toi de trouver ton équilibre là-dedans. Si tu comptes pas du tout sur la musique pour manger, fais ce que tu veux. Si tu veux manger de la musique, faut peut-être te poser quelques questions et te demander. Après, il y a des gens qui ont un feeling, genre qui écoutent énormément de musique populaire et que juste, ils vont... Je sais pas, adapter, ingérer plein de trucs,
insuffler un petit truc un peu plus original là-dedans, quoi.
Ben ouais, et surtout, genre, ça va paraître naturel pour eux de faire un truc qui soit compréhensible par tout le monde, tu vois. Que moi, à titre personnel, c'est avec ça que j'ai plus de mal. Moi, j'ai plus l'habitude d'écouter des trucs un peu spé, d'avoir des obsessions pour un artiste, pour un truc en particulier, et je vais me bousiller à ça parce que je trouve qu'il y a un truc intéressant dedans. Et je vais avoir plus de mal à faire des trucs de moins en moins, mais à la base, j'avais quand même pas mal de mal à faire des trucs, je pense, qui pouvaient toucher un large public. Là, maintenant, je suis en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas être Michael Jackson, ou tout le monde ne peut pas être, je sais pas, en France, Gims, ou j'en sais rien.
D'un point de vue plus business, Tarafa, notamment pour en vivre, comme tu le disais, Chrono, est-ce qu'il y a la place à des marchés plus de niche, à des styles moins mainstream?
Ouais, en streaming, clairement, et de plus en plus, et notamment grâce à tout ce qu'on appelle les playlists de mood. Ça peut être, par exemple, les playlists chill que vous connaissez, qui sont énormes pour certaines et qui ont clairement fait décoller des bedroom producers, des beatmakers dans leur chambre, avec une SP404 qui avait aucune velléité business particulière, qui se retrouve à faire des millions de streams et qui, du jour au lendemain, alors que c'était quand même à la base vraiment le beatmaker, la musique, le hip-hop instrumental, c'est pas forcément... il a connu des années assez sombres et assez sinistrées. Là, grâce au stream, grâce aux playlists, grâce à tout ce mode de consommation qui n'est pas forcément le mode le plus glorieux, parce que finalement, tu as des gens qui vont appuyer sur play sur une playlist, ils savent même pas de quel artiste...
Une forme de passivité.
Mais pour le coup, ça fait vivre des artistes, quoi. clairement. Ouais, alors que c'est pas des stars, c'est pas des personnes connaissent leur tête. Enfin, ils font pas de concerts. Donc c'est aussi un truc un peu de niche particulier.
T'avais une remarque, Chrono?
Ouais, d'ailleurs Pandrez, qui est
notre gars Pandrez.
Ouais. Mon gars de ouf, mais petit il tape des streams à foison, mon gars. Des streams à foison et ouais. Et
pourtant, il est inconnu du grand public, quoi. Alors que effectivement.
Ouais, voilà. Alors que je sais plus exactement combien il a, mais genre des auditeurs par mois, il en a 1 million, je pense, facile. Tu vois.
Ouais, ouais. Alors genre, que voilà. Alors que à côté, bon, pour le coup, c'est Pandrez, il est assez actif par ailleurs, il fait beaucoup de choses et tout. Mais
ouais, puis il est très chaud musicalement. Ouais. Ce qu'il propose, oui. C'est pas non plus que. Enfin, tu vois, c'est pas. Il avait mal pris d'ailleurs, Pandrez, s'il voit ça, il va rigoler. Il avait eu une critique qui disait, genre en gros, le lofi, chill hop, etc., c'est la nouvelle musique d'ascenseur. Mmh. Genre, il se faisait descendre les gens dans l'article. C'était des caries, je crois, qui disaient ça. C'est un article américain et le type, il disait en gros, c'est de la musique qui n'est pas faite pour être écoutée, tu vois, c'est de la musique pour être mise en fond et tout, tu vois. Mmh. Il y avait. Peut-être un truc d'assez juste sur la manière dont les gens vont le consommer, mais de là à descendre les cibles en disant n'importe qui peut le faire, tu vois, ça c'est typiquement le genre de critique qui m'insupporte, parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi, enfin, j'ai l'impression, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a ce côté-là, cette critique de la. Ouais, que je trouve assez injuste vis-à-vis de ce genre de producteurs.
Mais moi, ce que je vous propose, Chrono, même. C'est qu'on fasse à l'occasion une émission, un podcast sur le phénomène chill-hop, hip-hop, lofi, etc., à travers les chaînes YouTube.
Il y a des choses à dire, il faut inviter Pandrez.
Et en plus, les Français sont forts dans ce style, ce serait vraiment intéressant.
Ah, grave.
Mais là, en l'occurrence, pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on continue un peu sur l'émergence des artistes et tous les choix artistiques qu'il faut faire. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est est-ce qu'il faut cibler des populations particulières ? Est-ce qu'il faut, quand tu es un artiste français, est-ce qu'il faut cibler avant tout le marché français ? Est-ce qu'il faut penser aussi aux auditeurs potentiellement à l'étranger ? Est-ce qu'il faut cibler les jeunes absolument parce qu'ils sont plus consommateurs ? Ou alors au contraire, parce que les vieux parce qu'ils ont peut-être plus un pouvoir d'achat ? Alors, un artiste, il pense pas uniquement de cette manière, évidemment.
C'est assez cynique comme façon d'aborder la création.
Si on prend un peu de recul, nous, tu vois, comme ça, on analyse, on voit ce qui fonctionne. Comment ça marche ?
Est-ce qu'il faut cibler une population en particulier ? Encore une fois, à travers le prisme du streaming, oui, il faut viser les jeunes parce que ils ont une consommation obsessionnelle et ils cliquent, ils sont en repeat à fond. Et plus tu fais du stream, plus tu fais du revenu. Donc, de cette perspective, oui. Après, c'est pas forcément les plus riches pour acheter, du merch édition limitée, à moins que tu sois vraiment dans le top de leurs artistes les plus idolâtrés. Sinon, pour le reste, c'est un peu plus. Tu peux aller viser, je sais pas, tu vois, quand t'es dans le jazz, du coup, tu as peut-être des plus gros cachets. Non, quoique, franchement, je dis n'importe quoi, je pense pas que ce soit pour le cas, pour tous mes jazzeux qui galèrent.
En tout cas, c'est marrant ce que tu dis sur ces différents modes de consommation. Moi, je pense notamment à la K-pop, parce que c'est probablement le style musical qui a une fanbase la plus active, on va dire, la plus effervescente. Et là-dedans, tu vois qu'il y a énormément de soutien aux artistes qui se fait via le biais du streaming. C'est-à-dire, pas seulement le streaming, même carrément, genre, les mettre en tété. Genre, je sais pas si vous êtes sur Twitter, mais genre, tu regardes les tétés. Tous les jours, il y a des trucs, hashtag avec des trucs en coréen.
Ouais,
alors moi, je comprends parce que bon, voilà. mais en vrai, genre, c'est déjà incroyable parce que là, tu vois des francophones qui, pour la majorité, j'imagine, j'en sais rien en fait, tu vois, mais je pense qu'au moins, il y a une petite partie d'eux qui comprend pas le coréen, qui tweetent des trucs en coréen pour qu'ils soient entêtés, qui disent « allez streamer machin », et effectivement, ils mettent le BTS en repeat et je pense que c'est même au point où genre ils peuvent laisser tourner ce truc pendant qu'ils dorment pour faire des vues à l'artiste et c'est une manière de les soutenir.
Ça c'est du dévouement
et c'est le fanatisme, là le mot fan a vraiment son sens.
Ouais, c'est vraiment fandom quoi.
Il y a un autre point les gars qu'il faut aborder quand même, c'est j'ai l'impression que c'est pas la même chose quand on est un artiste solo aujourd'hui, un rappeur solo, un beatmaker solo, quand on est un groupe de rock, lorsqu'on est un compositeur. Aujourd'hui, pareil, quand on veut émerger en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a des profils qui sont privilégiés pour émerger? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce qu'il faut être à plusieurs? Voilà, vraiment, dans le projet artistique, quel genre de profil s'en sort le mieux?
Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment s'il y a une règle, mais c'est vrai que de façon générale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois beaucoup moins de groupes qu'avant, quoi. Beaucoup moins de groupes que, je sais pas, qu'il y a 10 ans. J'ai l'impression que la mode du groupe est un peu partie au profit de l'artiste solo.
Et je crois que
c'est une réflexion intéressante. Le home studio, puis c'est assez cohérent avec l'idéologie dominante dans la société.
Ouais, l'individualisme.
Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. Et c'est marrant parce que je pense que le succès de PNL, par exemple, qui est quand même genre le duo émergent, même plus qu'émergent, là, c'est émergé. Mais genre, leur image dépend fortement quand même de ce sens de la famille, de machin, de on fait tout à deux, et etc. Au-delà de l'aspect on est mystérieux et tout ça. Et genre, ils arrivent à prendre le contre-pied tout en tenant en fait le même discours, tu vois, parce que c'est quand même niquez-vous, tu vois, mais niquez-vous, mais on n'est pas tout seul, on est deux. Tu vois?
Ouais. Après, pour le coup, eux, ils ont développé tout autour une imagerie, un mystère autour de leur personnalité et tout, qui est assez incroyable. Ouais, quoi. Ouais.
Mais vraiment, sur le côté, c'est vrai que PNL, une particularité, c'est que c'est un duo. Mais c'est vrai que je pense, franchement, on voit plein d'exemples de beatmakers très forts qui émergent, de rappeurs solo aussi qui émergent, de groupes de rappeurs déjà beaucoup plus rares. Et effectivement, PNL, en étant deux, c'est une particularité déjà. Mais je pense typiquement à des styles musicaux qui se jouent à plus, à des bandes, quoi, des vrais groupes. Et là, j'ai l'impression...
Comment ça, des vrais groupes?
Oui, pardon. C'est la déformation du guitariste, ouais, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore la place, que ce soit... C'est pas forcément lié au style musical, hein, c'est pas forcément avec des instrumentistes, etc. Mais de faire un projet à plusieurs et d'arriver à le pousser et à émerger, quoi.
Je sais pas, mais c'est pas faux ce que tu dis, enfin... Ce qui est assez rigolo, c'est que moi, ça me fait penser à l'émergence du piano solo, pour parler de vraie musique et de et de vrai artiste.
On va recevoir des mails horribles.
Ouais, surtout toi, moi, je me dis ça.
C'est Salman. Hein. Not in my name. Mais ouais, t'as de plus en plus... bon, je suis pas vraiment un connaisseur, mais en tout cas, je vois l'explosion en stream de ce genre-là. Du piano solo à la faveur encore une fois de playlists qui sont peut-être plus écoutées pour
l'ambiance. Juste le piano solo, c'est des morceaux où on entend que du piano,
c'est ça. Des compositions de piano solo, quoi.
Donc, bon, ça fonctionne vachement bien en stream.
Ça fonctionne, et c'est assez fat. Il y a des playlists, je crois que c'est une des plus grosses playlists de Spotify qui a une playlist de piano solo qui s'appelle Peaceful Piano. Et c'est incroyable. Enfin, un morceau, je pense qu'un morceau, je dis un truc plus ou moins à la louche, mais un morceau dans. Un track dans Peaceful Piano, qui en plus, c'est une playlist qui tourne assez peu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que t'es dedans, t'es safe, tu vois. Tu sais que tu vas faire du stream, mais c'est des trucs, ça peut te générer, je sais pas, je vais parler en argent, hein, mais de genre, je sais pas, 50 000 euros par an, juste un titre dans cette playlist, quoi. C'est vraiment, vraiment énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Elle est hyper
super. Ouais, c'est ce que je vais faire.
Ouais, bah ouais.
Sors le piano solo pour faire de la musique.
Voilà. Ouais.
Non, c'est assez impressionnant. Après, bon, voilà, c'est aussi. Enfin, c'est bien, hein, ce que les artistes qui réussissent à rentrer dedans font. C'est de la très bonne musique.
Mais c'est très intéressant, en fait, de se dire, tu sais, on a cette image, justement, genre, que le rap domine absolument tout. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de chiffres, il y a des gens qui font des chiffres colossaux. Genre, mais on disait, Pandrez, il fait des chiffres colossaux. Genre, en fait, bien plus que la majorité des gros rappeurs qui disent qu'ils vendent beaucoup, tu vois.
Carrément, en plus.
Alors que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des gens qui sont forcément connus du grand public ou qu'on va arrêter dans la rue.
C'est clair. En plus, si tu rentres même, pour aller plus loin et sans vouloir trop partir dans tous les sens, mais si tu vas en plus chercher derrière les deals qu'ont les artistes, un mec comme Pandrez ou un profil similaire, tu vois, qui fait énormément de streams, qui est totalement indépendant, autonome, qui limite va mettre sa musique tout seul en ligne via un DIY, un agrégateur, sans passer par une distrib plus professionnelle comme Idol. Exactement. Tu vois, DistroKid, c'est un low cost de ce que nous on fait chez Idol, quoi. Mais t'as plein d'artistes qui passe par DistroKid, par TuneCore, machin, et qui se font leur beurre là-dessus. Alors que tu as peut-être un gros rappeur en maison de disque qui va toucher que 20% de l'ensemble des revenus.
Franchement, on y reviendra ça sur ce point, sur cet aspect économique et des contrats, parce qu'il est passionnant. J'aimerais juste qu'on termine, si vous le voulez bien, sur les choix artistiques, l'aspect artistique. On rentre plus là dans le vif du sujet de la composition. On sait aujourd'hui que les vecteurs, que ce soit notamment le streaming, évidemment, on parle beaucoup de streaming aujourd'hui, mais c'est parce que c'est devenu aujourd'hui essentiel quoi, pour l'industrie musicale. Est-ce qu'il faut clairement composer en pensant aux plateformes sur lesquelles ce sera diffusé? Est-ce qu'il y a des nouvelles normes qui sont imposées? Est-ce qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, dans sa composition, il faut prendre tout ça en compte?
Moi, j'avais fait un espèce de mème qui avait un peu tourné. Il y avait Julius du Patapouf Gang, la boulangerie française, qui l'avait partagé. J'avais fait ce mème qui disait, en gros, à l'heure actuelle, dans les maisons de disques, il y a des directeurs artistiques sous coke qui expliquent à des artistes sous weed c'est quoi TikTok. Et en quoi il leur faut au moins 2 à 3 morceaux avec un fort potentiel de même habilité dans leur album ou autre. Parce que, genre, TikTok, si t'écoutes le top viral 50 Spotify mondial, tu les postes sur Instagram, les gens, ils disent chanson de TikTok. Ouais. Chanson de TikTok, chanson de TikTok, chanson de TikTok. C'est que
fou,
des chansons de TikTok.
C'est dingue.
T'as raison.
Même le The Box, là. Ce truc-là. Pour moi, apparemment, ça a percé avec TikTok.
Ouais, je sais pas, je vois pas.
Mais est-ce que tu penses que, genre, à l'heure actuelle, il y a des gens qui réfléchissent leurs morceaux en fonction de ça, notamment TikTok?
Carrément. Il y en a beaucoup, et pas seulement... Et pas seulement des coquets de maisons de disques, quoi. Également des gars qui sont un peu plus débrouillards, hyper opportunistes, mais je dis ça peut être opportuniste dans le bon sens du terme, qui vont chercher les bonnes opportunités où elles sont et qui vont faire de la musique essentiellement dans cette direction-là. Il y a un mec qui s'appelle Nick Sylvester, qui a un label à Los Angeles qui s'appelle Godmode, un mec que je connais bien, que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps, et qui expliquait que lui, carrément, il va aller chercher maintenant... Alors lui, c'est next level. Il va aller chercher des TikTokers qui sont déjà fat sur la plateforme, et il leur fait faire de la musique pour qu'elle soit adaptée sur la plateforme. Et donc, le potentiel de viralité, il est genre maximisé, quoi. Et le gars, c'est un excellent producteur de studio. Il est vraiment très fort. Et il a fait exactement dans cette démarche. Il est allé chercher un mec qui s'appelle Love Leo. Et ils ont sorti un single là, qui s'appelle Boyfriend. C'était en janvier, je crois. Et ça a extrêmement bien streamé. Et les gars, ils sont indés. Hyper,
je sais que
hyper smart,
Squeezie,
quoi.
Par exemple, il a taffé... Enfin, là, il a signé qu'un label. Je ne sais plus c'est quel label, mais... genre, Squeezie, il a fait 2-3 tests, 2-3 petits morceaux, je pense, pour prendre la température à la base. Et puis après, il a signé avec un truc. Et je ne sais pas où ça en est, son histoire, je ne le connais pas. Mais a priori, genre, il est parti pour faire de la musique. Ouais. Et quoi qu'il arrive, il va faire des chiffres.
Mr.
V, qui est une démarche peut-être... je connais pas bien la démarche de Squeezie, mais Mr. V, avec toute la promo qu'il a fait, on a déjà un peu plus de matière pour se faire une opinion sur ce truc-là. Et là, tu sens que lui, c'est un type qui est déjà passionné de musique à la base, qui voulait faire le truc, et qui a plus utilisé sa notoriété comme tremplin pour faire un truc qu'il voulait déjà faire à la base, ou qu'il aurait fait s'il n'avait pas fait YouTuber.
Ouais, tout à fait.
Mais... clairement, il y a des gens...
Après, t'en as, ça marche pas à tous les coups. Il y a certains gros youtubeurs qui sont totalement floppés en stream. C'est et je vais pas citer de nom, mais le transfert, il est pas non plus... heureusement, le transfert n'est pas automatique, quoi. C'est-à-dire que il suffit pas d'avoir une communauté pour réussir, quoi. Il faut aussi quand même...
C'est sûr. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est même à double tranchant de ouf. C'est genre, si tu fais de la merde, tu te fais allumer.
Bien sûr.
Faut être carré.
Si on devait résumer un peu cette première partie, on va passer à la seconde. Le numérique et le streaming, en gros, impose sa loi, quoi. C'est on essaye vraiment de se calquer plutôt même sur les règles, les usages, les normes liées au numérique, à la viralité, aux réseaux sociaux et au streaming, quoi. Ouais, vous êtes assez d'accord pour ça, cette conclusion?
Oui. Après, c'est pas le streaming, c'est les gens. Le streaming, c'est le moyen et le format actuel, de la même façon que le vinyle à une époque où le CD avait aussi influé sur la façon dont on composait la musique et dont on appréhendait la création d'un album pour le faire rentrer dans le format qui existait. Là, maintenant, le format, c'est avant tout le streaming, pas que, mais en très grande partie. Mais pour moi, ça reste quand même le public qui fait et défait les carrières.
Bien sûr.
Sachant aussi, que c'est marrant, ouais. C'était une question que je voulais poser pour la suite, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est pertinent maintenant. Moi, c'est mon opinion personnelle. J'ai l'impression que l'album, c'est un peu voué pas à disparaître, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de comment dire, le pour moi, ceux qui sortent des albums genre travaillés comme des albums genre à l'ancienne, genre Alpha One, UMLA, tu vois, c'est vraiment un album qui est taffé. En fait, genre avec des standards qui ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui, même si son album est incroyable, c'est probablement un des meilleurs albums de rap de ces dernières années, tu vois.
Ouais, ouais.
Même plus que probablement.
Ouais, très
mais, en tout cas, tu vois, il est adapté à l'industrie du CD, en fait, tu vois, et aux radios, et etc., tu vois. Et alors que c'est pas forcément le plus pertinent pour le streaming aujourd'hui. Est-ce que pour toi, comment tu vois l'évolution de ce format-là au fur et à mesure des années? Parce qu'on sait aussi qu'ils sortent un album et puis après, genre, Mehdi Maizy disait ça sur Twitter, on devrait faire des paris sur, combien de temps après la sortie de l'album sort la réédition, tu vois.
Ouais, ouais, genre Dinos, là, il en est à sa 12e réédition ou je sais pas.
Ouais, ouais, il y avait Nekfeu, ouais. Enfin, ils font tout ça. Ouais, et déjà, pourquoi et comment t'imagines la suite
Bah, après, sur le format album, moi, je pense pas qu'il soit mort, mais c'est vrai que c'est une question un petit peu complexe. J'ai pas de réponse définitive parce que c'est vrai que le stream est hyper adapté aux tracks, à sortir des tracks, à sortir des singles, à enchaîner des singles. Et là, les plateformes effectivement essayent d'influer sur le format de par les playlists qui sont par nature une compilation de titres et pas d'albums. Mais donc ça, c'est d'une part, et ça va plutôt en, c'est un discours un peu en faveur de l'album est mort, il n'y a plus que des titres. Mais d'un autre côté, comme le mode de rémunération du stream et une accumulation de volume d'écoute qui donne un montant en fonction du taux stream de chaque plateforme, tu te retrouves avec des artistes qui sortent des albums de 40 titres direct, quoi, tu vois. Tu vois, Gims, il avait sorti un album hyper avec plein de titres. Jules, voilà, pas la peine de le préciser. Et t'en as plein comme ça. Hein. Et notamment, les rappeurs, ils sont pas mal en pointe dans ce truc-là. Ils arrivent avec des albums assez denses et avec beaucoup, beaucoup de titres. Et c'est justement pour aller chercher, du stream et du revenu. Et moi, je le vois. Tu vois, en étant bon, Idol, on est une boîte indépendante, on n'est pas ni Sony, Universal, Warner, et on s'en fout un peu du disque d'or ou du disque de platine. On est content quand il y en a un, mais c'est pas ce qui nous anime, c'est pas pour ça qu'on fait les choses. Bah, on sait très très facilement quand tu vois un artiste qui arrive avec un album de 10 titres, bah ça va être beaucoup plus galère de faire de passer une certif et d'être disque d'or que si le gars il a 20 titres. C'est tout simple, c'est mathématique et c'est
peut-être juste pour apporter non pas une nuance mais essayer de recontextualiser un peu dans l'histoire de l'industrie musicale, rappeler qu'en fait l'album n'a pas été la norme du tout. Il y a eu une époque où l'album était important, mais je pense notamment aux années 50-60, c'était le règne du single. Et quand on sortait des choses, en fait, on compilait des singles ensemble. Il y avait quelques morceaux comme ça. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que l'album est devenu extrêmement important, avec notamment tout ce qui est opéra rock, etc. En fait, on a commencé à avoir des albums construits de bout à bout, qui voulaient raconter une histoire, etc. Alors, ça se faisait peut-être même un peu avant, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il y a eu une époque de la musique qui a marqué, et qui encore aujourd'hui reste très marquante, d'albums extrêmement construits. Mais en réalité, il y a eu des hauts, des bas. Enfin, l'album n'a pas toujours été la norme, la référence, dans l'histoire de l'industrie musicale. Voilà. Et peut-être que ça reviendra plus tard. Enfin, c'est pas en tout cas un bouleversement fondamental à mon sens, quoi. Bon, les gars, on a fait là un bon gros point sur tout ce qui est les choix d'ordre plus artistique, hein, lorsqu'on a une carrière émergente en tant que musicien. L'autre point essentiel, évidemment, cette deuxième partie, on va la consacrer à tout ce qui est image et communication. Encore une fois, on va se retrouver à parler beaucoup de numérique parce que ça se passe évidemment beaucoup par là. Moi, le premier truc qui m'interroge, c'est un truc tout con, mais j'ai l'impression qu'il y a des changements à ce niveau-là suivant les époques. Est-ce qu'il faut forcément être jeune pour être un artiste émergent?
C'est dur à dire. Disons que tu as peut-être plus de chances d'émerger, mais tu peux quand même être un artiste émergent à n'importe quel âge. Bon, c'est pas le gars était pas non plus un senior, mais Caris, il a percé à 35 ans par exemple, quoi.
Ouais. Fianso, enfin, c'est pareil, je pense.
Ouais, voilà, ouais. C'est Après, c'est effectivement des exemples, mais bon, encore une fois, on parle de rap là, mais c'est quand même des gars qui étaient actifs sur la scène plus underground, mais ils étaient quand même là avant, quoi. Mais oui, effectivement, ils ont émergé, ils ont commencé leur carrière à décoller alors qu'ils étaient pas, ils avaient pas 20 ans, quoi. Donc c'est possible, mais de façon générale, oui, ça reste un peu plus marginal, en effet, quoi. Surtout dans ce nouveau monde dominé par le stream et qui est donc hyper drivé par une audience assez jeune, quand même.
Hmm. Ouais. Chronomusique, t'as une vision, toi, là-dessus? T'as un truc...
Non, pas spécialement. J'ai l'impression que ça peut arriver à tout âge. Pareil, tu vois, genre après, faut se... Je pense que c'est comme dans tout. Faut surtout, je pense, une espèce de cohérence, mais ça, c'est plus pour l'image globale.
Ouais.
Ce qui va me permettre d'embrayer sur la deuxième question.
Quelle finesse, quel tacticien.
Vis-à-vis de l'apparence physique et des choix esthétiques, Salman demandait si l'apparence physique et des choix esthétiques marqués étaient nécessaires, que ce soit au niveau de la beauté, de l'univers visuel des clips, etc. Est-ce que...
Ce qui effectivement recoupe seul, l'âge, en fait, d'une certaine manière, c'est quelle image tu donnes de toi, en fait, que ça passe
aussi
physiquement, quoi, par le style vestimentaire, tout ça. Est-ce que ça a une importance particulière aussi, plus qu'auparavant ou pas ou...
C'est pour comme orienter un peu la question, je dirais que là, on a l'air, en tout cas, de vivre une époque où, en gros, t'as deux images principales. T'as le déjanté, le genre Billie Eilish, à la française, t'as Laylo. Enfin, tu vois, t'as les styles très extravagants, les teintures et les dabs. Mm. Et puis, de l'autre, t'as Jules avec la dégaine de la cité qui joue sur l'image du... Enfin, il ne joue pas, je pense qu'il l'est vraiment, mais en tout cas,
une forme de simplicité.
Son image, c'est l'image de la simplicité du type normal.
Ouais.
Quoi.
Bah, en tout cas, dans les deux cas, t'as bien résumé le truc. L'image, elle est quand même capitale, quoi, pour tous ces artistes. T'as pas un artiste qui marche sans une image marquée, que ce soit marquée dans le naturel comme Jules ou marquée dans l'extravagance ou dans le spé futuriste comme Laylo, par exemple, quoi.
Ouais. Et même la volonté de la volonté de ne pas avoir d'image, ça peut aussi renvoyer une image.
Bien sûr.
Ou ne serait-ce que l'anonymat, on pense à Kekra avec son masque, avec les Daft Punk, etc., tous ces trucs-là.
Bien sûr, bah, c'est totalement une image. Hein. Enfin, ouais, complètement.
Ou l'illustre chronomusique aussi.
L'illustre. Mais est-ce que, finalement, c'est ça la question que moi, ça me pose, tu vois, c'est est-ce qu'on peut échapper à l'image ou pas?
Dans ces schémas-là, je ne pense pas. J'aimerais bien, hein, mais de toute façon, et puis c'est comme de façon générale, on parlait de l'apparence physique tout à l'heure, bon bah c'est comme dans la vie, je pense que t'es avantagé quand t'es beau ou que quand t'es moche, quoi. Enfin, tu vois, c'est du coup là en plus aujourd'hui avec Insta et YouTube, l'image est quand même au cœur de la consommation musicale. Il faut se faire remarquer par un truc, quoi. Après, sans image forte du personnage, enfin, sans personnage ou sans image forte d'un groupe, tu peux compenser avec du storytelling, avec une histoire ou avec une particularité qui est pas forcément visible sur les photos, mais tu vois, il faut que t'aies un truc, quoi. Ce qui, honnêtement, à titre personnel, je m'en désole un peu. Enfin, je trouve ça un petit peu. Enfin, on joue tous avec les codes et avec les moyens de notre époque, mais je trouve pas que ce soit le. Enfin, c'est pas quelque chose qui me rend spécialement heureux de le tout marketing de absolument. Voilà, il faut que t'aies, tu vois, une jambe en moins ou ou que tu sois.
Mais quelle proportion est-ce que tu penses que ça prend à l'heure actuelle? Est-ce que toi tu vois une différence avec à l'ancienne, par exemple? J'avais cette discussion-là sur Twitter avec un type récemment, mais genre, que lui avait l'air de dire « c'est désolant qu'on soit à l'époque de l'image, etc. » Et moi, je me suis rappelé de moi, dans mon enfance, le début de mon adolescence, que j'avais entendu que 50 Cent s'était pris 9 balles avant d'avoir entendu quelques musiques que ce soit, tu vois. Donc, cet exemple-là, en fait, il me fait me demander dans quelle mesure est-ce que c'est différent. Bon, après, il n'y a qu'une... une quinzaine d'années d'écart entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un truc qui avait déjà commencé maintenant, qui se perpétue enfin, qui a déjà commencé à l'ancienne, qui se perpétue maintenant? Comment est-ce que tu vois le truc? Dans quelle proportion est-ce que tu penses que ça fonctionne?
Non, mais déjà, je pense que t'as raison, ça a toujours existé. Ça fait partie de toute carrière. T'as l'image qui va avec. C'est même les... les valeurs ou le, tu vois, le l'esprit qu'il y a derrière ta création artistique et tout. Bon, c'est vrai que ça va avec une image, ça va avec une histoire. Et là-dessus, là-dessus, c'est vrai que je te rejoins et que peut-être ma réflexion ou le fait de dire que c'était mieux avant, c'est un peu une réflexion de vieux con. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que là, on est dans une période où c'est un peu plus le cas et où en tout cas où l'image est un peu plus essentielle, tu vois. Ouais. Et encore une fois, ça va avec, pour moi, avec l'évolution des moyens et des modes de communication, donc Internet, YouTube, Insta, où si t'as pas d'image, si t'as pas de photo, t'es mort, quoi, tu vois. Bah, il faut que t'aies une image, ouais. Même si ton image, c'est de pas montrer ton visage, quoi.
Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le clip, il cristallise quand même beaucoup aussi ces questions d'image, etc. Il est devenu un truc... essentiel. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu, à l'époque du MTV Tout-Puissant, le clip était déjà fort. Il y a eu plein de moments dans l'histoire de la musique où le clip était marquant. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus tant le clip qui restera longtemps dans l'histoire, quoi que ce soit, mais que, en tout cas, ça devient plus un support, non plus forcément une œuvre artistique en elle-même seule, mais un support pour le morceau et que c'est nécessaire d'avoir ce support pour un morceau aujourd'hui, quoi.
Ouais.
C'est l'impression que j'ai aussi. Qu'est-ce que t'en penses
Je suis assez d'accord. Ouais. Et c'est un peu aussi la course au spectaculaire de plus en plus, quoi. Là, j'ai l'impression de voir une évolution impressionnante des moyens sur des clips qui sont de plus en plus des clips internet, quoi. Enfin, tu parlais de MTV. Là, aujourd'hui, les labels, les artistes, tous ont fait des clips pour YouTube, quoi. C'est assez rare d'avoir une velléité de passage en télé qui soit vraiment dès la création, quoi. Tu vois, ça peut être un accident heureux derrière, et à la limite, en vrai, tout le monde s'en fout. Ce que tu veux, c'est être visible sur YouTube et que soit que tes fans kiffent et accrochent direct sur ton nouveau morceau, ton nouveau projet, ou en acquérir des nouveaux. Mais au début, YouTube, quand c'est arrivé, du coup, ça a ouvert un terrain d'opportunité où tu avais plein d'artistes indépendants ou de moyenne gamme qui pouvaient proposer des clips beaucoup moins chers. Et c'est toujours le cas. Hein. Mais je vois de plus en plus, même des artistes pas forcément fat ou totalement indé, qui arrivent avec des propositions de clips de plus en plus impressionnantes. Et ça, c'est ouf, quoi. Enfin, où t'as de plus en plus de moyens. Ouais,
pour moi, la question des 10 prochaines années, c'est qui va topper ODD, quoi.
Ouais.
Tu vois, genre, c'est aller dans l'espace, hein, le prochain. Je vois pas d'autres alternatives.
Juste ODD, c'est le morceau de PNL sur la Tour Eiffel, voilà, pour tout le monde.
Oui, voilà.
ODD, je la passe la tête, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV.
C'est vrai que ça illustre bien l'importance folle du clip et comment un morceau qui peut être plus ou moins anodin à la base devient une référence parce qu'il est supporté par un clip derrière, quoi.
Ouais.
Je suis pas d'accord avec l'idée que le morceau est anodin, tu vois. Pour moi, c'est un morceau incroyable et le clip, il va avec, tu vois. Après, ouais c'est clair que le clip, il a fait parler, tu vois, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis à leur place, tu vois, qui se sont identifiés, qui se sont dit, putain, si eux, ils le font, ça veut dire... Enfin, t'imagines, c'est des types, ils sont comme nous, tu vois. Ils sont comme nous, ils sont au-dessus de la Tour Eiffel, c'est incroyable.
Après, que le morceau soit anodin ou pas, quand même, t'as très souvent des clips, et là, en l'occurrence, c'est encore un niveau au-dessus, mais t'as des clips, clairement, qui subliment des morceaux, quoi. Et je pense qu'il y a plein de morceaux... qu'on n'aurait pas apprécié pareil sans l'image incroyable qui l'accompagne, hein. Clairement, parce que c'est aussi une lecture différente du morceau, tu rentres en profondeur dans le truc.
Ouais, c'est sûr.
C'est une évidence, c'est clair. Et depuis tout à l'heure, on a évoqué beaucoup les réseaux sociaux, on a parlé alors de YouTube évidemment, plus en mode vraiment réseaux sociaux, on a parlé de TikTok, on a parlé d'Insta, etc. Aujourd'hui, quand on veut émerger en tant qu'artiste, par quelles raisons on passe ? Est-ce que, effectivement, le numérique qu'on a déjà évoqué, on ne va pas y revenir, c'est vraiment le passage obligé et il peut suffire à lui-même ? Est-ce que les réseaux plus classiques, type radio, télévision, presse-papier, pourquoi pas, ou même envisager d'autres façons, un truc con, mais le live, la place du live aussi pour communiquer, c'est une manière de communiquer pour beaucoup de groupes à la base, le live, de tourner dans plein de bars, etc., de se faire un petit nom. Est-ce que Tarafa, qu'est-ce que tu observes, toi, avec les artistes émergents d'aujourd'hui ?
Bah, je pense qu'il y a vraiment autant de cas de figure que de médias ou de types de moyens de communication que tu as cités. Et qu'en fait, il ne faut pas se limiter à un truc. Ça va vachement dépendre de la personnalité de l'artiste ou du groupe et de ce qu'ils ont envie de faire, du genre musical, de l'âge. Parce que voilà, effectivement, ça va beaucoup dépendre quand même de tout ça. Tu n'as pas cité dans le tas non plus les plateformes de stream qui... Pour beaucoup, doivent être considérés comme un réseau social. Mmh. En tout cas, c'est leur volonté un peu de se diriger là-dedans avec cette obligation ou en tout cas cet encouragement à la récurrence des prises de parole et donc des morceaux. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les singles. Et tu as aussi des carrières qui démarrent avec le stream, hein, qui sont tout de suite soutenues, tu vois, qui sont des bébés... De Deezer, de Apple ou de Spotify qui sont hyper dopés et qui derrière vont profiter de leur stream pour aller choper de la radio, de la promo et ensuite se lancer dans le grand bain et faire des concerts. Ce qui est totalement le schéma inverse du dernier que tu décrivais, à savoir tu commences par faire des concerts dans des bars et puis t'es un peu repéré et puis t'as un petit peu de promo d'abord dans la presse locale et puis...
Est-ce que c'est obsolète ça, ce fonctionnement de faire du live pour émerger? Ouais.
Non, pas du tout. Il y a plein de... Alors pour émerger, ça arrive pas tout seul, c'est forcément une dynamique globale et tout, mais voilà, t'as des projets qui sont... Tu sais qu'ils vont démarrer par le live et je pourrais même pas vraiment te dire... en fonction d'un genre particulier, ou parce que je pense que c'est même pas vraiment ça, ça dépend vachement des profils de si c'est bien en live.
C'est sûr. Et tu parlais tout à l'heure de la volonté potentielle de Spotify, Deezer, etc., de se diriger vers une utilisation plus de réseau social.
Ouais.
Mais par exemple, qu'est-ce que toi, t'as l'impression qu'ils mettent en place pour aller dans ce sens-là? Parce que. Par exemple, Spotify par rapport à SoundCloud, et c'est un truc que moi qui suis à la fois créateur sur Internet et énorme consommateur de ce qui se fait sur Internet, par exemple, la différence entre SoundCloud et Spotify, c'est que SoundCloud, tu peux commenter. Sur Spotify, tu peux pas commenter les morceaux, tu peux pas dire... même sur YouTube, tu peux commenter, etc. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils implémentent pas ça? Et qu'est-ce que toi, tu vois d'autre, du coup, pour en faire un réseau social?
Alors, je le vois pas trop. C'est vrai que cette partie commentaire, elle est assez intéressante. Ça je le voyais pas forcément comme ça, mais tu vois sur Deezer tu peux commenter par exemple, donc c'est quand même une
mais je savais pas du tout déjà.
Ouais, c'est quand même un truc qui va dans cette direction. Même des playlists, tu peux commenter des playlists et tout ça. Tu t'abonnes à des artistes, pareil sur Spotify. C'est plus tu vois, t'as de plus en plus sur certaines plateformes des onglets un peu communication où tu peux, tu vois, où tu vas pouvoir, tu gères ta bio sur Spotify. Quand je parle de réseau social, c'est un peu plus réseau social dans la perspective de t'es un artiste et t'as un truc à défendre sur un réseau social. Ça va se jouer en gros avec les mêmes règles aujourd'hui sur les plateformes de stream. C'est-à-dire que tu vois, on t'encourage à poster une vidéo plus toutes les deux semaines ou tous les mois que tous les six mois, parce que c'est comme ça que tu vas quand même remonter dans l'algo, que tes followers, ils vont te suivre, etc. Pareil sur Facebook, si tu postes pas régulièrement, tu t'es totalement invisible. Sur Insta, c'est pareil, il faut mettre un truc tous les jours. Et sur les plateformes, c'est la même chose, dans le sens où il faut sortir du contenu très régulièrement. Tu fais monter ton nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify, par exemple. On t'encourage à sortir de plus en plus de tracks. T'en as un qui va être playlisté, ça fait gonfler ton volume global d'auditeurs mensuels et donc d'abonnés. Donc ça veut dire que le morceau suivant que tu vas sortir sera plus visible dans le radar des sorties pour les gens qui te suivent déjà et tu auras plus de chances de te retrouver dans des playlists. Donc, tu vois, c'est plus dans cette dynamique-là, c'est-à-dire c'est pas forcément... le truc ne ressemble pas à un réseau social, en réalité, il ressemble plus à une radio aujourd'hui, et c'est aussi une direction qu'ils veulent prendre, de toute façon, ils veulent tout devenir. mais en tout cas, dans la problématique et dans l'approche que doit en avoir un artiste, ça ressemble de plus en plus à ça, quoi.
Ok. Ouais, merci pour tes explications, c'était très clair.
Juste dans la continuité un petit peu de ça... Est-ce qu'il faut établir des stratégies de communication? Est-ce qu'il faut être accompagné par des professionnels? Est-ce qu'on peut faire ça en famille, juste avec un ordinateur? Tu gères toi-même tout ce qui est communication, etc. Est-ce qu'il y a, pareil, une forme de norme aujourd'hui qui s'est imposée?
ça dépend de ta sensibilité, encore une fois. Il y a des artistes, tu vois, un mec comme Lampal, là, il y a quelques années, quand ça a explosé, personne n'avait besoin de lui dire ce qu'il fallait faire, quoi. Le gars, t'as des artistes comme ça qui sont hyper forts, qui ont une vision totale de leur art, de la façon dont ils veulent le défendre, de la façon dont il faut poster sur les réseaux, comment animer leur communauté. Ils le savent mieux qu'un consultant à la con qui va te vendre du rêve. D'un autre côté, tu peux être un artiste tout aussi talentueux que Lampal, par exemple, mais t'as aucune capacité, aucune sensibilité dans ta communication avec tes followers. Tu sais pas comment aller les chercher, tu sais pas comment leur donner envie. Et bah, t'es totalement handicapé, en fait. Et c'est malheureux, mais je pense que le potentiel de succès d'un artiste aujourd'hui, il se jauge, tu vois, à talent égal par ta capacité à animer ta communauté, à aller en chercher. Et je pense que c'est hyper important. Enfin, tu vois, c'est plus important que, pour moi, hein, que d'aller taper à la porte des médias. Même si c'est un truc qui est aussi capital, mais si tu maîtrises pas ta communication sur les réseaux, qui sont aujourd'hui, tu vois, t'as plein d'artistes qui sont beaucoup plus fat que les médias qui les invitent, et t'en as beaucoup en fait. C'est vrai. Hein. Donc, évidemment, tu peux te faire aider. Évidemment, c'est un truc important, surtout quand t'es au début de ta carrière, que t'es totalement indépendant, si t'as pas encore de manager, d'entourage, de producteurs, de labels, de distributeurs. Il faut s'y intéresser, il faut regarder. Et voilà, du coup, c'est malheureux. T'en as qui sont beaucoup plus avantagés par la nature parce qu'ils ont un peu plus cette sensibilité, quoi. Mais bon, c'est comme tout, j'imagine, ça se travaille. Hein. C'est comme les mix, quoi.
Ça nous fait une transition parfaite vers la troisième et dernière partie de ce podcast. Là, on voit clairement qu'on commence à rentrer sur la question de l'entourage. Évidemment, voilà, on s'intègre au sein d'une industrie lorsqu'on veut gagner sa vie avec la musique, etc. Il faut signer des contrats, il faut s'entourer de professionnels, potentiellement. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est toi qui va me... On va en discuter justement tous les trois ensemble.
Appelez-moi.
Oui, absolument. Mais concrètement, déjà aujourd'hui, est-ce qu'il y a des structures essentielles dont on ne peut pas se passer lorsqu'on veut construire une carrière artistique? Des structures, est-ce que c'est des maisons de disques, des labels, des choses comme ça?
Non, il n'y a rien d'essentiel. Y a, tu vois, des exemples comme... que des exemples qu'on a déjà cités, parce que finalement, ils sont assez peu nombreux, mais Jul, PNL, Lampal, ils sont aujourd'hui accompagnés par des structures... totalement indépendante, mais c'est des gars qui dépendent d'aucune maison de disques, à ma connaissance pour ces trois-là, d'aucune maison d'édition. Ils sont en indé total et ils ont plutôt pas trop mal réussi, comme on peut tous le constater. Donc, dans l'absolu, rien n'est nécessaire, réellement, quoi, tu vois. Sauf peut-être un distributeur numérique vraiment au top. mais en réalité, non. Rien n'est nécessaire. Et après, c'est comme ce qu'on disait sur la communication. Ça va dépendre de ta capacité en tant qu'artiste, en tant que groupe, à avoir une vision sur ton art, sur ta carrière, sur tes choix. Bon, voilà. Sauf que personne ou très peu de gens sont en mode multicasquette à être aussi bon artistiquement qu'en business et avoir en même temps un potentiel et une force de travail incroyable. Le métier qui revient un peu à la mode là, ces dernières années, c'est celui de manager. Parce que justement, le manager, il va être au service de l'artiste, l'aider à faire les bons choix, l'aider à trouver, pourquoi pas, les bons partenaires ou relais temporaires qui peuvent l'aider sur les réseaux sociaux, sur l'édition, sur est-ce qu'il faut se structurer pour devenir son propre producteur, monter son propre label, avoir sa propre boîte, être en autoproduction, comme les trois exemples que j'ai cités précédemment, ou, à l'inverse, aller taper à la porte soit d'un distributeur en direct qui va aller croire en l'artiste, mettre une avance, aider à financer et à structurer le projet, ou aller signer en maison de disques, et là, t'as différents types de deals, tu vas céder une partie de tes droits, de la propriété de tes enregistrements, parce que ça, on n'en parle pas trop, mais c'est un point assez important quand même. C'est, c'est la notion de propriété de tes masters, de tes enregistrements.
Les gars, on va bientôt conclure cette émission, mais il reste un point essentiel quand même, toujours un peu sur ces choix économiques. C'est la diversification des revenus, c'est comment on mange grâce à la musique. Alors évidemment, il y a le streaming, on en parle souvent. Est-ce que ça paye tant que ça déjà le streaming? Si on veut avoir son petit SMIC, est-ce qu'il faut faire énormément de vues, enfin d'écoutes? Comment ça se passe?
Ouais, faut quand même en faire pas mal si on veut vivre uniquement du stream. Et encore une fois, ça dépend du contrat que t'as avec ta maison de disque. Bon, voilà, ce qui est déjà un point assez important. Mais tout de même, t'as de plus en plus d'artistes totalement indépendants. Ça peut être dans tous les genres musicaux, mais c'est notamment un phénomène dans des beatmakers un peu chill ou ce genre de musique qui est très playlist friendly, ou certains jeunes rappeurs indépendants qui ont un gros potentiel et qui sont déjà très écoutés, même s'ils n'ont pas d'entourage professionnel. Mmh. Et en fait, tu as plein de ces artistes-là qui vivent complètement du stream. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que même si on dit toujours le stream ne paye pas assez, etc., et je suis assez d'accord, tout de même, c'est un nouveau moyen qui permet à des jeunes artistes indépendants de vivre totalement de leur musique. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas... Il y a quelques années, hein. C'est totalement nouveau. Enfin, en tout cas, des artistes de cette gamme-là qui réussissent à vivre de la musique enregistrée, sans parler du live, dont on parlera peut-être après, mais uniquement de la musique enregistrée, t'as beaucoup d'artistes qui vivent uniquement du stream. Et pour ça,
t'aurais un ordre d'idée du nombre des coûts de stream qu'il faut faire pour avoir à peu près son SMIC?
Pour faire un SMIC, il faut faire à peu près... Alors, je parle en stream audio, c'est-à-dire je ne compte pas les streams YouTube qui sont très beaucoup bien. Moins rémunérateurs, mais je fais une moyenne très vague entre Apple, Spotify et Deezer et Napster, Qobuz, etc. Mais en gros, en tout, il faut faire à peu près 500 000 streams par mois.
Ouais, c'est quand même... C'est pas accessible à tout le monde, quoi.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, il faut déjà être une petite machine à stream, mais t'as quand même beaucoup d'artistes et d'artistes qui sont pas connus, hein, enfin qui sont pas très connus, qui font ça. Mais oui, bien sûr, c'est pas.
Et j'imagine que la réponse, c'est forcément dans la diversification, comme dans plein de business en réalité d'ailleurs. J'imagine qu'il faut aussi envisager d'autres sources de revenus.
Ouais, oui, bien sûr.
Hormis le streaming aujourd'hui, alors il y a les ventes physiques, mais on va pas rentrer dans le détail. On sait que de toute façon, elles sont en chute libre. Enfin, qu'elles baissent sans cesse et qu'elles vont rapporter de moins en moins. C'est la logique des choses. Mais justement, hormis ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressources aujourd'hui? On parlait du live, par exemple
Ouais, carrément. Alors, juste les ventes physiques, il ne faut pas non plus totalement les écarter.
Ouais.
Effectivement, pour les gros vendeurs, ça reste, une part significative, même si c'est que 30% pour les très gros rappeurs de 20-30% de leurs ventes. Bon, sur des chiffres d'affaires à 1 million, ça reste une part importante. Mais bon, on ne parle pas forcément d'artistes émergents. Mais après, tu as plein d'artistes émergents dans des genres beaucoup plus nichés. Là, on a été vachement focus sur le stream. Donc, ça déforme aussi un petit peu la vision globale. Tu as des artistes, et ça va avec le live, tu as plein d'artistes qui vendent énormément sur les concerts, des jeunes artistes de rock, de jazz. La chanson est encore un genre qui est quand même... très très physique, donc il faut pas totalement l'écarter. Après voilà, c'est vrai que globalement si tu regardes le gros tableau, ça reste relativement marginal. Après la plupart des artistes cumulent en fait d'une façon avec des parts qui varient en fonction des profils, mais cumulent le stream, généralement un peu de physique, le live, les éditions, la synchro, c'est-à-dire le placement de morceaux dans des pubs, dans des films, dans des séries télé, même si c'est un peu la loterie. Bon, il y a peu d'artistes ou de managers ou de labels qui basent leur business model sur la synchro, parce que c'est un truc un petit peu aléatoire. Mais parfois, ça peut faire vivre des artistes pendant un petit moment. Après, ouais, c'est ça, c'est le live, c'est le merch. Pareil, généralement, ceux qui vendent beaucoup de physique vendent aussi beaucoup de merch.
Ce qu'on appelle le merch, c'est les produits dérivés, en fait.
Ouais, c'est ça, le merch, les t-shirts, les éditions collector. Parce qu'autant, tu peux être un artiste qui vend très peu de physique ou pour qui le physique est assez marginal, mais quand tu fais un très bel objet en physique et que tu as une fanbase assez forte, même si elle est pas importante en volume, si elle est très engagée, bah tu peux proposer des produits collecteurs, des exemplaires signés, des coffrets avec un t-shirt, un scud, une cassette. Il y a tout plein de choses à imaginer qui sont pas forcément que des objets, que des déclinaisons physiques de la musique, quoi.
Un petit pack son. Un petit pack son. Il y en avait comme ça, ouais. Qui coûtaient. Je sais plus exactement qui avait fait ça. Il mettait des petits 10 balles dans ses CD.
Oui, c'était pas Mysterio.
Ah si, c'était Mysterio, ouais. Incroyable. Incroyable.
Ouais,
marketing à son meilleur. Ouais. On a beaucoup parlé de, comment dire, de retour sur investissement, mais en fait, on n'a pas vraiment parlé d'investissement. Moi, ça m'intéresse de savoir. J'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, que par rapport à l'ancienne, les coûts de production de la musique pure ont énormément baissé. Ça veut dire que même Jul, qui fait des triples platines, il fait ça dans son abri de jardin.
Le home studio a tout bouleversé.
Ouais, le home studio. Enfin, genre, là, vraiment, pour créer de la musique, ça coûte genre à tout péter 500 balles, quoi. Enfin, si vraiment... Enfin, non, tu comptes un bon PC, allez, tu vois, t'en as 1500 balles, t'as tout investi, tu vois. Par contre... comme tu disais tout à l'heure, la production value des clips a énormément augmenté.
Ouais.
Et selon toi, c'est quoi le budget moyen par mois d'un artiste justement au SMIC en termes d'investissement, tu vois?
Ah, le pauvre artiste au SMIC, je vais pas lui demander de trop investir quand même. Mais
ben, en même temps, le public, j'ai l'impression que le public lui demande d'investir.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'un SMIC, même en stream, ne sera pas nécessaire pour lui s'il veut continuer à conserver ce SMIC, quoi.
Ouais.
Après, t'as plein de dispositifs de subvention. On a la chance en France d'être quand même pas mal aidé sur la filière. Mais bon, là, ça demande encore une nouvelle compétence administrative, de se prendre la tête, d'aller remplir des dossiers qui sont généralement assez contraignants et assez compliqués aussi pour démotiver les moins courageux ou les moins expérimentés.
Ou les branleurs.
Voilà. Mais globalement, ouais, effectivement, je pourrais pas donner un budget précis, mais je pense que ouais, ça se passe vachement par l'image, la production vidéo et le marketing aussi, hein. C'est-à-dire même, tu vois, des campagnes Insta, Facebook, YouTube pour pousser un peu ton clip, de la promo quand tu commences à passer un certain step, aller prendre un bon attaché de presse qui va aller choper des bons relais médias, même si c'est très compliqué. Il ne faut pas le faire trop tôt, je pense, parce que trop tôt, il vaut mieux investir en ce que j'appelle du marketing, tu vois, du marketing digital, c'est-à-dire des petites campagnes Facebook, IG et YouTube pour essayer de faire grossir un petit peu ton ouais. audience avant de prétendre
prendre de la promo. Justement, le seuil, il se situe où? À partir de quelle somme est-ce que ça commence à devenir intéressant d'investir et que tu te dis, là, si tu sens que tu as du potentiel et que tu as... À partir de telle somme, tu vas pouvoir te démerder pour potentiellement faire un truc.
À partir de... Tu parles de quel type de somme? De somme que tu mets ou que de somme que tu reçois?
À partir de quelle somme tu mets? À partir de quel investissement tu penses peut arriver à faire un truc?
Bah, t'as plein de niveaux de développement différents, tu vois. Donc, ouais. tout n'est pas lissé. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu sors un clip et que tu veux qu'il soit et que t'es pas connu et que tu veux qu'il soit un peu vu, si tu mets moins de 500 euros par clip, tu risques de pas être trop vu, quoi.
Ouais. Et tu te parlais tout à l'heure de campagne de pub, ça veut dire financer les posts, quoi, sur tous les réseaux sociaux.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aller un peu plus loin que juste faire un boost de publication, c'est-à-dire aller vraiment dans le business manager Facebook, Insta, aller essayer de cibler, tu vois, ton audience, les gens qui peuvent être sensibles à ta musique, en fonction de leur centre d'intérêt. Voilà, est-ce que c'est les gens qui vont aller regarder Combini ou OKLM mais après juste pour revenir sur les moyens de production qui ont effectivement les coûts de production ont effectivement beaucoup baissé, mais ce que tu disais est totalement vrai, mais il est vrai uniquement dans la musique électronique quand même, tu vois, sous toutes ses formes, hein, musique électronique, rap, tu vois, si t'es un quintet ou même un groupe de rock, il va quand même assez rapidement te falloir un vrai studio, à moins que tu aies chez toi la place et l'isolation phonique pour pouvoir enregistrer et tout faire, quoi. Tu vois,
c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi, ça fait partie peut-être des choses qui ont fait que le rap, ça aurait pu être soit le rap, soit la musique électronique, mais en tout cas, c'est sûr que la facilité de production et le moindre coût ont fait que des gens puissent s'approprier ce style-là plus que du Big Ben, quoi.
Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Chacun peut passer énormément de temps dans sa chambre et devenir hyper créatif. C'est moins galère. C'est sûr, hein, c'est sûr. Enfin, de toute façon, le rap même, dans sa... je trouve dans l'esprit, c'est aussi un esprit très do it yourself et très... tu vois, très débrouillardise et très genre, bah vas-y, juste fais-le, quoi. Tu vois,
ouais, voilà.
T'as pas fait de solfège, t'as pas fait de... Ouais.
Est-ce que, Tarafa, Chrono, pour résumer un peu notre discussion, donc on essayait de comprendre, en gros, comment émerger en tant qu'artiste aujourd'hui, comment ça se passe, quels sont les facteurs principaux, etc. À la fois du point de vue artistique, plus de l'image et de la communication, et puis évidemment sur les choix économiques. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, le milieu de la musique s'est désenclavé, il est plus ouvert, mais qu'il repose énormément sur les intentions et les qualités personnelles des gens, de leur capacité à mobiliser soit leurs propres ressources intellectuelles, financières, ou alors à bien s'entourer, et surtout à communiquer de manière adéquate pour être vu au sein d'une jungle, quoi. Est-ce qu'on pourrait résumer ça d'une manière générale comme ça ?
Ouais, bah, je pense que tu l'as très bien résumé, ouais. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi à la fois toute la beauté du moment et le terrain incroyable d'opportunités qu'il peut y avoir pour un peu tout le monde. Et en même temps, ça peut être hyper discriminant pour certaines personnes qui n'ont pas toutes ces facultés, qui sont toutes globalement autre chose que de la musique en elle-même, quoi, tu vois. Donc, c'est pour le meilleur ou pour le pire, quoi.
Bon, cette émission touche à sa fin. Avant de laisser les gens, on va quand même faire un petit tour. Tarafa, donc, alors évidemment, tu bosses pour Idol, c'est ton activité principale. À côté, tu as aussi un label qui s'appelle Mutant Ninja. Vous sortez régulièrement plein de choses. Vous avez différents artistes signés dessus. Toi-même, d'ailleurs, tu as une carrière artistique. Dans le rap, tu as sorti là récemment un nouveau clip, Rêve et Cauchemar. Où c'est qu'on peut retrouver rapidement un peu ce que vous faites ?
Bah écoute, on peut nous retrouver un petit peu partout sur les réseaux, Mutant Ninja Records, c'est sur Facebook, sur Insta, et moi-même Liquid84 sur Insta, n'hésitez pas.
Bang bang.
Yes. Yeah. On va essayer de mettre un petit extrait, on va voir si ça passe.
La lune maquille tous mes cocards, je suis esclave de mes rêves, prisonnier de mes cauchemars. Et pizza, ninja, l'héritage des grands frères, j'écris des mots, des rimes à ne plus savoir qu'en faire. Je traîne des textes inachevés sous ma voûte plantaire, pense comme un intello, agis comme un gangster.
Et sinon, toi Chrono, évidemment, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, Chrono Musique, ça tue ce que tu fais, c'est trop cool. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur la façon dont on fait de la musique, l'univers de la musique, etc. C'est une belle continuité de ce qu'on fait dans ce podcast. On te retrouve aussi, j'imagine, sur les réseaux sociaux, Chrono Musique.
Voilà, K-R-O-N-O et Musédica.
Yes.
Yeah.
Et toi, Salman, du coup, on te retrouve pareil sur tous les réseaux.
Sur tous les réseaux, ouais, absolument. Sur Salman TikTok. Sali, S-A-H-L-I. J'ai notamment aussi un autre format vidéo qui s'appelle Culture Son, où on aborde plein de trucs, plus d'un point de vue culturel, sociétaux, autour de la musique, sur comment ça transforme un peu notre monde et comment notre monde transforme la musique aussi. Et on me retrouve effectivement sur la même chaîne YouTube que ce format, Monte le Son, sur Facebook aussi, et puis ouais, sur les réseaux sociaux de manière générale. Chrono, où c'est qu'on peut retrouver ce podcast ?
Sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tout le bordel.
Yes.
Et ben on va essayer de faire ça une fois par mois, d'être le plus carré possible, d'avoir des intervenants intéressants. Donc si vous avez un profil intéressant, contactez-nous. Nous, d'ici là, on va diguer pour trouver des trucs à vous dire.
Fond.
Et on se retrouve très bientôt.
À bientôt tout le monde, ciao.
Salut, ciao.
Parfait.
Ouais.